Partir à l'aventure en marchant.
Être et savoir. Louise Touret.
Les vertus de la marche sont si nombreuses que beaucoup de marcheurs se sont mis à écrire des livres ou des écrivains qui marchaient et ont parlé des vertus de cette activité. Pourtant, nos enfants marchent de moins en moins dans leur vie quotidienne. Comment peuvent-ils dès lors encore imaginer partir à l'aventure? Nous en parlons avec un explorateur, aventurier et un marcheur, Jean-Louis Etienne. Il vient de publier « L'enfant qui marche ». Avec nous également, l'auteur et illustrateur François Place, car l'aventure, c'est aussi une histoire de mots et d'images. Et puis dans cette émission, la leçon de choses de Sophie Bobert, évidemment, cette semaine, l'écrivain et peintre d'origine australienne, Emmeline Landon. Cela intéressera beaucoup mes invités, car c'est toute jeune qu'elle est partie en voyage, une itinérance familiale.
Je suis partie à l'âge de 6 ans. Donc en fait, c'est tout ce temps où on n'a pas encore vraiment... Si, on commence à écrire un petit peu, mais où on est quand même très libre, on n'a pas encore été vraiment formé par l'école...
Et on retrouvera cette leçon de choses vers 17h45 car elle devrait beaucoup inspirer mes invités. Jean-Louis Etienne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes explorateur, est-ce qu'on dit comme ça pour vous ?
Explorateur, médecin, écrivain.
Médecin, c'est important, on va en parler. Je l'ai dit, vous venez de publier « L'enfant qui marche » aux éditions Plume de Carotte, co-auteur Florence Tinard et Marc Nguessan est l'illustrateur de cet ouvrage qui est destiné à la jeunesse.
Oui.
On peut le dire et qui raconte votre vie, votre parcours depuis l'enfance, justement, parce que cet enfant qui marche, c'est vous.
L'enfant qui marche, oui, c'est moi. Et alors, ce qui est amusant, c'est que l'éditeur m'a demandé un livre sur la marche. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, en réfléchissant, que ma première liberté, je l'ai gagnée avec la marche. Vous voyez ? Et donc, ça m'a beaucoup inspiré. Le premier grand voyage que j'ai fait, je suis parti de la ville de Castres. On habitait à la campagne et mes parents avaient déménagé à la ville. J'ai été malheureux. Et un jour, je suis parti à pied. Il y avait 13 kilomètres. Voilà, donc j'ai fait ça, j'avais 12 ans. Et donc, quand je me suis remémoré ça, je me suis dit, mais attends, mais c'est les premiers pas, c'est la liberté que je me suis octroyée. Et donc, la marche, c'est un premier pas vers la liberté, c'est pas compliqué. Il suffit de le décider, d'avoir une bonne paire de chaussures et c'est parti.
Les premiers pas vers la liberté. Avec vous, François Place, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur et illustrateur jeunesse. Vous publiez actuellement « Le Marquis de la Baleine » aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors, votre œuvre est multiforme, assez importante. Déjà, vous créez des univers de fiction, à la fois dans les albums que vous illustrez et que vous écrivez. Parfois, vous écrivez aussi simplement des récits. Parfois, vous illustrez les récits d'autres auteurs. Vous inventez des contrées imaginaires. Et dans ces contrées, eh bien, on va voyager, vous les explorez avec vos personnages. Vous en avez même répertorié les contours et les particularités dans des atlas qui font également rêver. Alors on va commencer par la marche, on a déjà commencé par la marche, Jean-Louis et Étienne. La marche, c'est tout simple. Vous dites que c'est un outil de liberté et pourtant, les enfants d'aujourd'hui marchent beaucoup moins que ceux des générations précédentes. On parle de ce sujet depuis 2014. C'est un médecin anglais, William Byrd, qui a souligné à l'aide de cartes que les parcours quotidiens des enfants étaient de moins en moins longs. Est-ce que ça vous inquiète, vous qui étiez un enfant marcheur, Jean-Étienne ?
Non, ça ne m'inquiète pas, mais je dirais que c'est dommage. C'est dommage. Vous savez, le premier pas, la marche, quand on décortique la marche, c'est le rattrapage permanent d'un déséquilibre. Et le premier pas que l'enfant fait, il se met debout, puis pouf, il tombe. Hein. Il fait, il lance la jambe à l'autre jambe, pouf, il tombe, et puis à un moment donné, pouf, la deuxième, et c'est parti. Et en fait, la marche, c'est le rattrapage d'un déséquilibre permanent. J'en viens à votre question, c'est en fait plus que les jambes qui marchent. C'est tout un développement du système cérébral. Donc, C'est dommage de se priver de ce geste simple qui est la marche et qui donne effectivement une maturité neurologique, une maturité à l'éveil. Donc il faut bien comprendre ça, c'est que les marches, les jambes nous tiennent debout, mais c'est pas que les jambes qui marchent, c'est tout son corps, la tête, le regard, plein de choses. Quand on décortique cet acte simple, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont à l'œuvre et donc ça fait partie du développement. À la fois de physique, bien sûr, mais de toute la réflexion, la maturité du système nerveux, l'équilibre. C'est riche, la marche.
C'est riche, donc quand on ne marche pas, peut-être qu'on s'appauvrit. On accuse beaucoup les écrans d'être responsables, à la fois d'immobiliser les enfants, mais en même temps, vous parliez du regard, hein, Jean-Louis Etienne, oui. Donc de détourner le regard de l'extérieur.
C'est la meilleure façon de voir, c'est la marche, c'est la bonne vitesse du regard. Vous voyez, le regard se pose à la bonne vitesse de la marche. Et c'est vrai que les parents non plus ne marchent plus beaucoup. Quoi, hein, vous voyez, ce qui nous a rendus intelligents, je dis nous, le genre humain, c'est que quand l'homme s'est relevé, les membres, ceux qui étaient les jambes avant de l'animal, sont devenus les membres supérieurs, la main, etc. Et on a commencé à faire des choses avec ses doigts. Et si on a un cerveau qui s'est très développé comme ça, c'est parce qu'effectivement, la liberté que nous a donnée la station debout a permis d'être des fabricants d'outils, etc. Donc, on va vers une... On était l'homme debout, l'homme faber, comme fer, on faisait les choses. Et avec l'évolution de la société aujourd'hui, on fait les choses beaucoup plus assises. On va vers la norme, vers le règlement, vers la comptabilité, c'est que des choses qui se font assis, tout ça. Alors moi, j'appelle ça une société de cul de plomb. On s'alourdit sur le fauteuil, vous voyez. Et en fait, c'est vrai que, pas que les enfants, mais aussi les parents perdent ce goût de la marche. Et il faut le reconquérir parce qu'il y a du fun à marcher.
Du fun, de la joie et de l'intelligence, vous l'avez dit, puisqu'on réfléchit en marchant. Et puis quand on marche, vous l'avez dit aussi, Jean-Louis Etienne, on se perd. On se perd comme vous l'avez fait, et pas vraiment, puisque vous racontez cette fugue à l'âge de 12 ans. Vous êtes retrouvé, vous avez retrouvé le chemin du village de vos origines. Et aujourd'hui, ce qui existe, c'est aussi bien des téléphones portables qui permettent de voir où est, par exemple, son enfant, même des trackers, hein, y a des parents qui mettent des trackers. Et là, c'est pas des enfants qui partent en expédition comme vous au pôle. Hein, c'est juste pour retrouver son enfant dans la ville. Est-ce qu'on perd quelque chose à ne plus pouvoir se perdre ?
Oui, bien sûr. On se charge d'inquiétudes. Plus il y a des outils de localisation, de savoir où, comment, à quelle heure exactement, plus il y a des outils comme ça, plus l'espace que l'on a pour soi se restreint en fait. Il y a plus d'espace à soi. Moi, je m'amuse à regarder comme tout le monde dans la rue, par exemple. Il y a très peu qui sont à l'endroit où ils sont, par la pensée. Ils sont là où les amène le téléphone, vous voyez. Donc, c'est vrai que moi, je suis né il y a longtemps, hein, en 46, donc j'étais dans un village où on marchait à pied, donc j'ai pas de mérite, si vous voulez, on marchait, quoi. Donc, il n'y avait pas d'autre choix. Après, un peu plus grand, à 14 ans, on avait la bicyclette. Après le certificat d'études, la récompense, c'était l'achat d'une bicyclette. Et donc, c'est vrai que je suis né comme ça. Moi, j'ai des enfants jeunes. Et je vois que pour les faire marcher, il faut les secouer un petit peu. Et donc, c'est vrai que là, toutes les occupations qu'on peut avoir aujourd'hui, puis ils sont très connectés, ils sont entre eux sans arrêt. Et on n'a plus besoin d'aller chez l'autre. Le rendez-vous, il est sur la tablette. Il n'y a plus cette nécessité où on se retrouve. Enfin, si, quand ils vont au Cinoche ensemble, par exemple. Mais c'était pour... On communique sans se voir, donc on n'a plus à se déplacer.
Ah, c'est les trucs là qu'on voit là, ouais. À l'horizon là, juste là.
Ouais.
Oh, je suis arrivé là.
Il reste 6-7 km là quand même, hein. Facile, hein.
Ah ouais, là je commence à voir la route qu'on va emprunter, en fait il est bien loin le bled encore.
Je marche entre 20 et 30 km par jour. Normalement on fait pas ça tous les jours quoi.
Le matin, c'est un truc de ouf. On se lève à 6h du mat. Après, faut dire. En plus, c'est pas genre on se lève à 6h du mat, on peut genre flemmarder et tout ça. Non, on se lève, on commence à faire ses affaires. Après, direct, dès qu'on est prêt, on a pris notre petit déjeuner, on se met à marcher direct. Après, au moins, j'ai à midi, je suis fatigué, j'ai pas le temps de me poser, on se remet à marcher. Le temps que je me réveille vers 13-14h, hop, après, il nous reste peut-être 2h de marche. J'ai mal aux jambes, je me sens fatigué encore, après on est arrivé. C'est ça une journée de marche. Hein.
C'est ça une journée de marche pour Idan, 15 ans, parti marcher pour s'en sortir pendant 3 mois et demi sur les routes de Saint-Jacques-de-Compostelle. En fait, Idan était déscolarisé. C'est un reportage qu'on peut encore écouter en podcast. Il avait été produit par Charlotte Bien-Aimée et réalisé par Annabelle Brouard, diffusé dans Les Pieds sur Terre en 2013 pour la première fois. Qu'est-ce que ça vous inspire, Jean-Louis Etienne ?
Ça m'inspire qu'il faut avoir un but. Vous voyez, pour la marche, vous irez, on va aller là. Et on apprend à développer la marche, une sorte de dépendance à la marche ou d'amour de la marche, quand on décide une randonnée, un petit sommet facile, quelque chose comme ça. Et alors on regarde, bon, tu donnes, je ne vais pas aller là où, c'est loin, un peu comme ça. Puis on y va et à un moment donné, on arrive au sommet. C'est-à-dire on arrive à Saint-Jacques pour lui, on arrive quelque part. Et donc on a réussi quelque chose. Et là, ça devient constructif. On oublie en fait l'acte de marcher, on sait qu'on va vers quelque chose. Vous voyez, parce que dire marcher pour marcher, je ne vois pas que ça sert. Quoi. Mais si on fixe son but comme lui, là ça devient intéressant. Et même pas que pour les enfants, pour les adultes. Leur dire de marcher, je n'ai plus marché depuis longtemps. Et alors bon, je veux marcher, mais non, fixez-vous un but et vous l'atteignez. Il y a une récompense. Il faut qu'en fait la marche soit l'outil, le moyen qui vous amène là où vous avez décidé d'aller. L'objectif, il est prioritaire. La marche, ce n'est qu'un moyen. Vous voyez, s'il n'y a pas de moyen, s'il n'y a pas d'objectif, marcher n'a pas beaucoup de sens. C'est pas rigolo, quoi.
Mais une source de satisfaction, vous l'avez dit à l'arrivée. François Place, qu'est-ce que ça vous inspire, la marche ? Vous décrivez des personnages qui marchent, qui explorent, qui vont à la découverte d'autres mondes.
Ce que m'a inspiré le reportage, par exemple, c'est le bruit des pas sur le gravier. Ça, je trouve ça vraiment très très beau d'entendre justement quand on marche, il y a aussi toutes ces sensations qui rentrent dans le corps, les odeurs, la lumière du jour, comme le disait Jean-Louis Etienne, un horizon à atteindre, des cimes qui sont successives pour les enfants. En fait, dans leur développement, quand ils sont petits, ils apprennent progressivement à agrandir leur territoire. Donc ils passent de la chambre et puis après ils agrandissent dans l'appartement. Peut-être qu'ils vont dans le jardin, etc. Et c'est une suite de premières fois. Et la première fois qu'on arrive dans le jardin, la première fois qu'on voit la mer, la première fois qu'on va à la montagne, la première fois qu'on voit la neige. Et toutes ces premières fois, en fait, nous constituent. Et je pense que dans la marche, on retrouve ça aussi. On retrouve une partie de ça parce que on est... dans une phase de semi-rêverie. Je parle pas de la marche vraiment quand il faut être très sportif et qu'il faut faire un énorme effort, mais la marche comme ça où on peut se laisser un petit peu aller, c'est vrai que la tête se vide et se remplit en même temps. Moi je sais par exemple qu'il m'est arrivé d'écrire des livres non pas en marchant mais en allant dans la forêt, en faisant une petite heure de marche. Je m'aperçois que les idées viennent plus facilement, que ça nourrit parce que en fait on se vide en même temps. Donc je sais pas si c'est très clair, mais
ah ben si c'est très clair. Oui, là vous soulignez encore une fois que c'est pas que les jambes qui marchent, c'est la tête quoi. La tête est à l'œuvre et puis on change de décor. Il y a des choses qui se passent que l'on voit parce qu'on n'avance pas vite, qui inspirent. On a des odeurs qu'on arrive à capter. C'est une bonne vitesse de la découverte, la marche.
Oui, je crois aussi. Oui.
La découverte et parfois la découverte de ce qu'on a commencé à entreapercevoir grâce au livre, grâce aux cartes, grâce aux atlas. Qu'est-ce qui a inspiré vos aventures, si on peut parler d'aventures, oui. Jean-Louis Etienne, dès le plus jeune âge?
Moi, j'aimais la montagne. Je suis né dans un département qui s'appelle le Tarn, qui est pas fourni, quoi. Hein. C'est un département agricole, mais au loin, il y avait les Pyrénées. Et donc, je rêvais de montagne, deux choses. Il était paru dans un vieux Paris Match, j'étais jeune, il y avait trois pages, un dépliant de trois pages, c'était le massif du Mont Blanc. Et moi, je lisais Frison Roche. Frison Roche, c'était l'écriture des romans de montagne, Premier Cordée, La Grande Crevasse, etc. Et donc, moi, je faisais de la montagne avec Frison Roche. Je lisais, je savais, je connaissais l'emplacement des refuges, le nom des glaciers, le nom des sommets que je suivais sur ma carte. Ça a été mes vraiment premiers voyages. Et la lecture me permettait de voyager, parce que j'avais la carte devant moi, et je voyageais dans le massif du Mont-Blanc. Autre chose que j'ai retrouvée, chose que j'avais faite quand j'avais 14 ou 15 ans, j'avais fait une liste de matériel pour aller camper dans les Pyrénées en hiver. Alors, je ne sais pas ce qui me passait par la tête à 14 ou 15 ans. Voilà. Donc, j'avais des projets d'expédition que j'écrivais. Je rêvais de ces aventures sans vraiment les réaliser.
Et déjà du froid. Alors, ça, vous avez raison. Bien avant le pôle Nord.
Vous avez raison. Je ne comprends pas. Aller camper dans les Pyrénées l'hiver. Et j'imaginais seul.
Et bivouaquer cercle polaire aussi. Moi non plus, je ne comprends pas. C'est tout ce que vous avez fait. C'est une attirance extrêmement précoce.
Oui, et donc avec une tente, elle s'appelait des tentes canadiennes. C'était une espèce de petit truc comme ça. Et voilà, donc moi je suis né à la campagne. Donc j'avais des animaux apprivoisés, tout ça. Donc cet univers dont je parle, c'est dans mon enfance. Quoi. Donc la marche, la découverte de la nature, tout ça, c'était naturel. On allait à la pêche, attraper des poissons rouges dans l'étang, etc. J'avais un grand bassin je vivais avec ces éléments-là. Donc pour moi, c'est plus facile.
Et vous, François Place, qu'est-ce qui vous a inspiré enfant pour peut-être devenir l'auteur que vous êtes devenu?
Mais en fait, j'étais entre les deux parce que mon enfance, c'était dans une école de banlieue. Ma mère, elle était institutrice et mon père était peintre. Et donc, j'étais très scolaire, moi. J'enviais beaucoup les gens qui faisaient, les gamins qui faisaient l'école buissonnière, qui est un mot fabuleux. Parce que l'école buissonnière, vraiment, c'est le parfum de Robinson Crusoe. Et on a dit, mais ouais, il a raison, il part. Et moi, j'étais très cadré, comme ça, j'adorais l'école en plus. Donc, j'étudiais avec grand plaisir. Mais quand même, j'avais ce petit côté-là. Oh, la vache, ils ont de la chance. Ils partent faire l'école buissonnière. Ils sont culottés en plus. Et mon école buissonnière, c'était les vacances en Corrèze, qui était donc un autre pôle de mon enfance, où j'étais vraiment immergé dans un territoire rural avec une ferme, et avec là, pour le coup, la possibilité de marcher, de m'échapper avec les frères et sœurs, de partir sur les petits chemins, 2 heures, 3 heures, d'emmener les vaches au pacage, etc. Ça, c'est une grande chance, je crois. Je pense pas que tous les enfants ont cette possibilité de vivre totalement immergé dans la nature, avec justement un rapport aux animaux, un rapport aux plantes qui est très simple, mais en même temps qui est excessivement concret, qui est proche. Et on a cette impression de presque de pouvoir parler aux animaux. Donc j'étais entre ces deux pôles, un pôle très très scolaire, j'aimais étudier, j'aimais vraiment, j'étais un peu une bête à concours, mais j'adorais vraiment les cours de sciences nat, la littérature, la poésie, etc. J'adorais ça. Et en même temps, ce petit côté-là, de temps en temps, la petite lumière qui s'allume, mais ça n'a pas déclenché chez moi cette envie de partir pour de bon.
Vous êtes resté dans les livres. Parlez-nous des livres qui vous ont fait rêver.
Je suis resté un voyageur en pantoufle, et mon plaisir a été effectivement d'explorer le monde qui était autour de moi à travers les livres, à travers les récits de voyage. Alors j'ai lu aussi Frison Roche, j'ai lu tous ces gens-là, mais ça n'a pas déclenché chez moi l'envie de partir. Mais par contre, ça m'a ouvert des univers incroyables. Et de plus, on remonte dans les récits de voyage vers le temps passé, jusque, je sais pas, vers Hérodote, vers les Grecs, etc. Et de plus, on va vers des endroits complètement merveilleux où la géographie est habitée de démons et de merveilles. Et c'est là où je me sentais bien. Donc c'est ce que j'ai voulu faire, voilà.
En faisant, par exemple, l'atlas des géographes d'Orbae. Orbae, c'est un
C'est une île qui est, ouais. qui est. Alors c'est, ça pourrait être l'Antarctique parce que je pense pas être contredit si je dis que l'Antarctique autrefois c'était une terre où on imaginait qu'elle était beaucoup plus grande, qu'elle remontait dans le Pacifique, dans l'océan Indien. On envoyait des marins pendant des années aller chercher cette terre antarctique. Et puis il y a un grand navigateur qui s'appelle James Cook qui a dit non, il y a un continent gelé, mais on peut pas trouver cette terre fabuleuse. Et donc ça a généré d'autres voyages derrière, des voyages les conquérants de l'impossible. Hein. Donc vous faites partie, c'est les gens qui sont allés au pôle Nord, au pôle Sud. Ce sont quand même des... Enfin, pour moi, le plus mystérieux, c'est d'aller au pôle Nord, en fait. Parce que si on prenait une carte IGN du pôle Nord, c'est un papier blanc. Il y a rien d'autre. Il y a les coordonnées et c'est un papier blanc. Peut-être que si maintenant on faisait une carte aujourd'hui avec les techniques qu'on a, on pourrait relever le relief de la glace et surtout on pourrait relever que cette carte est mouvante parce que la banquise bouge. Donc ça serait une carte complètement extraordinaire. Ça serait une carte qui ne serait jamais fixe. Et je trouve qu'entre les deux, entre le blanc de la carte qu'on appelle la terra incognita et peut-être cette carte mouvante qui bouge et qui est peut-être l'image de la Terre qu'on a fabriqué aussi au fur et à mesure des siècles. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Voilà, c'est qu'est-ce qu'on appelle une terra incognita en fait. Qu'est-ce qu'on a, ça peut être maintenant l'espace, ça peut être les abysses, ça peut être le monde souterrain. Mais on a encore beaucoup beaucoup de choses à découvrir. Et je trouve ça extraordinaire. Voilà.
Jean-Louis Etienne.
Le pôle Nord.
Vous
le pôle Nord, c'est l'axe de rotation de la Terre. La Terre tourne autour du pôle Nord. Et le pôle Nord est au milieu d'un océan gelé. C'est pour ça que vous dites qu'il est blanc. C'est la banquise. Quand l'océan gèle, ça forme une couche de glace qui s'appelle la banquise, qui faisait, quand j'y étais au pôle Nord, 1,80 m, 2 m d'épaisseur. Aujourd'hui, elles font en épaisseur, mais il y a toujours cette immense place de glace. Et donc, quand on arrive au pôle, c'est-à-dire sur l'axe de rotation de la Terre, moi, quand j'avais préparé ce projet, j'avais imaginé un tas de trucs. Je me disais, peut-être quand on arrive sur l'axe de rotation de la Terre, peut-être on va se mettre à tourner, je ne sais
et
pas
là,
quelque chose.
Et là, vous tournez
chose.
Sur votre chaise.
Non, il n'y a rien au pôle Nord. Il n'y a rien. Et vous avez tout à fait raison de le dire. Parce qu'en fait, c'est une couche de glace qui dérive en permanence. Elle est poussée par le vent, elle est poussée par les courants. Et donc, ce n'est jamais la même glace qu'il y a au pôle Nord. Donc, si nous voulons faire cette émission au pôle Nord la prochaine fois, il va falloir marcher, si ça dure. Parce que des fois, ça se déplace de quelques kilomètres par jour. Donc, c'est une réalité. Et le problème des conquérants du pôle Nord, Ku, Piri, quel est celui qui est arrivé le premier? Ku qui dit, c'est moi, j'ai planté le drapeau américain au pôle Nord. Mais une heure après, il n'était plus au pôle Nord, puisque la banquise dérive doucement. Et quelques jours après. Et Piri est arrivé en disant, non, c'est moi le premier. Mais non, on ne sait pas. Et donc, moi, j'ai été au pôle Nord, mais une demi-journée après, je n'étais plus au pôle Nord. Donc, vous voyez ce que je veux dire? La banquise, c'est un immense radeau de glace flottant qui traverse l'océan Arctique et qui fait que, quand on arrive au pôle Nord, c'est uniquement la navigation, il n'y a rien.
Mais vous pouvez
c'est
marcher.
Rendez-vous au milieu de l'océan.
Vous pouvez marcher vers le pôle Nord, et ce qui est génial, c'est que sans changer de route, vous allez ensuite vers le Sud.
Ah si vous voulez, quand vous arrivez au pôle Nord, tous les vents viennent du Sud. Où que vous regardez, c'est le sud. Vous voyez, c'est vrai. C'est le point. Alors, le pôle Nord, c'est quelque chose qui est dans l'imaginaire de tous les pays du monde. Vous voyez? Parce qu'en fait, le pôle Nord, c'est la boussole, c'est le point de convergence de tous les méridiens. Tout le monde a un nord, tout le monde a un pôle Nord où que l'on habite, quoi.
Pourquoi souhaitiez-vous y aller seul, Jean-Louis Etienne?
Une bonne question. Moi, j'ai vécu depuis l'enfance des moments solitaires et ça ne me gêne pas du tout. J'en ai besoin. Je bricolais beaucoup. Je faisais les choses avec mes 10 doigts. J'avais besoin de ce temps-là, de ce temps seul. Et j'aime aussi les choses d'équipe. J'étais demi de mêlée au Castres Olympique, par exemple.
Oui, il y a beaucoup d'expéditions aussi en équipe.
Hein, mais seul.
Pourquoi seul là?
Le seul, c'est une intensité, c'est l'intensité maximale, vous voyez. C'est, vous avez, c'est une maîtrise. Moi, j'ai un mot, je ne me rends pas compte, je ne l'ai peut-être pas encore dit, mais autonome. C'est un mot qui me traverse tout le temps. Ça a été ma préoccupation tout le temps, d'être autonome. Et il y a quelque chose qui me rassurait depuis que je suis tout petit. Je savais qu'avec mes 10 doigts, je pouvais faire une cabane, avoir un jardin, des poules, et voir venir, vous voyez. Donc j'avais le minimum assuré, une cabane, un jardin et des poules. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a toujours aidé dans la vie à me dire, quoi qu'il arrive, je peux faire. Et donc cette quête de l'autonomie, vous voyez, je voulais jouer de la guitare à 14 ans, j'avais pas les ronds pour l'acheter, donc je l'ai construite. Je l'ai encore. Donc j'ai toujours essayé de faire les choses. J'avais jusqu'à l'âge de presque 35 ans, j'avais des vieilles voitures que j'achetais, mais je les réparais, parce qu'avant, on pouvait le faire. Aujourd'hui, les voitures parlent, c'est plus compliqué. Mais je changeais les choses. Donc, c'est cette envie d'autonomie, finalement, qui a fait que l'engagement solitaire ne me pèse pas. Mais j'aime aussi l'engagement en équipe.
Vous avez parlé de votre guitare, Jean-Louis Etienne. En 1986, vous aviez un Walkman, c'est raconté. Qu'est-ce que vous écoutiez ?
Je vais juste donner un exemple. J'avais J.J. Kelt et Véronique Sanson. Et donc, j'avais un Walkman. C'est un truc qui tourne, le Walkman. C'est au musée aujourd'hui, le Walkman.
Vous
avez vu un. Donc, il y a des petits trucs. Alors, tout ce qui bouge, tout ce qui tourne, ça veut dire qu'il y a un peu d'huile dedans, même si on ne le voit pas, vous voyez, pour que ça marche.
Et ça gèle.
Et ça gèle, tu as tout à fait raison. Et donc, j'étais pris par le blizzard sous la tente et je me suis dit, je vais écouter la musique. Donc, je prends le Walkman, mais rien. Rien parce que c'était gelé. Et donc, j'ai compris que c'était gelé, ça tournait pas. Et donc, je l'ai mis dans le sac de couchage entre les jambes, vous voyez, pour le faire. Et je me suis endormi. Et à un moment donné, ça a commencé. Des modèles, des choses comme ça, des vitesses qui variaient. Et donc, ça m'a réveillé. Et puis, Véronique Sanson est arrivée une fois bien dégelée.
Elle chantait en grave, du coup.
C'était une émotion énorme, en fait. Parce que j'étais dans une solitude extrême, tout à fait là-haut. Et ça m'a raccroché à des émotions de terrien, vous voyez, d'ici. Et je l'ai plus jamais écouté parce que c'était émotionnellement très fort.
Jacobi avait dit, c'est fini, j'en ai marre, mercredi je pars. Dans le ciel indécis flottaient de gros nuages gris. Pourtant Jacobi est parti marcher de midi à minuit. Marcher à tout jamais. Marcher. Jacobi marchait. Les premières gouttes sont tombées sur la route, et puis la pluie a redoublé. Coûte que coûte, Jacobi continuait pas à pas à avancer. Du nord à l'est, du sud à l'ouest, Jacobi cherchait au paradis un coin à l'abri avec un lit, un bol de riz. Jacobi disait, ça me suffit. Marcher, de midi à minuit, marcher, à tout jamais, marcher, Jacobi marchait.
Jacobi marchait, Charles-Élie Couture, c'était en 2001, vous écoutez Être et Savoir sur France Culture. On parle de l'enfant qui marche, cet enfant c'est Jean-Louis Etienne qui vient de publier ce livre aux éditions Plume de Carotte. Et François Place est également avec nous. François Place, auteur, illustrateur jeunesse. Vous avez entre autres publié un atlas d'un pays imaginaire, je le disais. Je vais lire un extrait de votre livre, Jean-Louis Etienne. Depuis toujours, les mots de la géographie le rendent heureux, on parle de vous. Déployer une carte, les bras ouverts comme des ailes, c'est déjà partir en expédition. Lire une carte avec ses légendes, ses couleurs et ses courbes de niveau, c'est déjà décider de son chemin. Les cartes sont ses compagnes de route, ses promesses d'aventure. Sur les atlas, en haut et en bas de la Terre, c'est en deux immenses zones blanches, pôle nord, pôle sud. Un jour, j'irai, murmure l'enfant. Alors, on a parlé des cartes et des atlas, mais je me tourne vers vous, François Place. Pourquoi décider de vous lancer dans la rédaction d'un atlas? Pourquoi inventer un monde imaginaire?
Alors, moi, je pense que je partage cet amour et cette fascination pour les cartes. Mais singulièrement aussi pour leur histoire, pour l'histoire de la cartographie, cette iconographie qui est quand même fabuleuse. entre les cartes du Moyen-Âge qui, par exemple, nous proposent des villes, des personnages, des bateaux, donc qui sont illustrés, on va dire, d'un certain nombre de merveilles, et puis les cartes, progressivement, vers le 19e siècle, qui deviennent de plus en plus précises, qui parfois simulent le relief, et de voir que l'image de la Terre est une espèce de balbutiement constant pendant à peu près 400 ans, avec des, j'imagine ça comme un énorme puzzle en fait, avec des géographes qui sont au cœur de leur cabinet et puis qui essayent péniblement de reconstituer la figure de la Terre, et ces navigateurs, ces explorateurs qui reviennent avec des journaux de voyage, avec des cartes qui sont pas toutes étalonnées évidemment de la même façon, avec probablement les difficultés pour relever les côtes s'il y a du brouillard, s'il y a du courant, etc. Et je trouve que c'est une histoire complètement fantastique. J'aimerais qu'on apprenne la géographie aux enfants de cette façon, leur dire que c'est une science en fait à la fois de désir, d'amour, parce qu'on veut la dessiner cette terre, on veut lui donner sa forme, et c'est en même temps une conquête scientifique. Il faut établir les méridiens, les parallèles, apprendre ce que c'est que la longitude, etc. Il y a tout un tas de techniques scientifiques qui accompagnent cette science, et je trouve ça beau. Je trouve ça magnifique, même les cartes d'aujourd'hui qui sont des cartes prises par satellite, qui ont peut-être un côté un peu plus inquiet que les cartes d'autrefois, parce que il y a un petit côté IRM, je trouve, dans les cartes satellites. C'est-à-dire, il y a un petit côté quand même prendre le pouls de la Terre, voir si ça va encore. Et il y a ce côté, seconde après seconde, on va mesurer la hauteur des océans, on va voir les vents, on va voir si ça tient encore le coup. Parce que justement, l'homme s'est tellement développé que il est devenu sur cette terre source de problèmes, on va dire. Donc il y a quand même une différence entre la carte où l'autre côté de la Terre est comme l'autre côté de la Lune, c'est quasi inaccessible. Et puis ces satellites qui tournent autour de nous, qui nous prennent en photo et qui prennent le sol en photo de toutes les façons possibles, mais avec une inquiétude. Les satellites sont soit militaires, soit scientifiques. C'est assez étonnant.
Mais c'est plus vraiment de l'exploration. Vous pensez que c'est pour pouvoir rêver encore qu'on étudie vos ouvrages dans les écoles?
J'espère. Je milite pour l'enchantement du monde. J'espère qu'on peut continuer à enchanter le monde de toutes les façons possibles. Et que, oui, il faut surtout pas renoncer à ça. Quand on parle de cabane au fond du jardin, c'est Robinson Crusoe, les enfants ont besoin de ça vitalement. Ils ont besoin de penser que, effectivement, ils peuvent, même s'ils n'ont pas techniquement les moyens ou concrètement les moyens, ils peuvent se construire une cabane au fond du jardin, c'est indispensable.
Jean-Louis Etienne, aujourd'hui, vous vous adressez de nouveau, parce que c'est pas complètement la première fois, à la jeunesse à travers cet ouvrage. C'est important pour vous de vous adresser aux enfants d'aujourd'hui?
Oui. Oui, c'est important parce que moi j'ai un parcours singulier quand même. Moi, j'étais pas un bon élève scolaire. J'étais pas un bon élève où je ne m'intéressais pas. Et donc j'étais après l'école primaire, j'ai eu une formation professionnelle. Donc je suis allé. En fait, je voulais faire menuisier depuis toujours. J'adore le bois. J'adore toujours le bois, l'odeur de la colle. Je bricole. J'adore ça. Je voulais faire menuisier. Il y avait plus de place au collège. Et donc on m'a mis un ajustage sur métaux, donc j'étais pensionnaire, et donc j'ai fait un CAP de tourneur fraiseur, vous voyez. Et donc là, il y a eu une révélation. J'ai eu une révélation à l'école parce que tout d'un coup, on est jugé sur les choses que l'on fait de ses 10 doigts. Il y a de la technologie de construction, on est à l'atelier sur des pièces métalliques, on réfléchit à des pièces, à des calculs, des choses comme ça. Et donc c'est la vraie vie. Vous voyez, et on n'est plus noté sur des choses sur lesquelles j'étais pas à l'aise du tout, le français, les trucs comme ça, j'étais nul, quoi. C'était ça, je n'y arrivais pas. En fait, je suis très, très dyslexique, dysorthographique, je le sais maintenant. Mais ce qui m'intéresse, c'est de m'adresser en même temps aux parents qui nous écoutent. C'est qu'un enfant qui est en troisième, par exemple, s'il a pas des bonnes notes, s'il s'y intéresse pas, il est pas à sa place. Ça veut pas dire qu'il est couillon, qu'il est mauvais. Il est pas à sa place. Un enfant comme ça, ça a de l'énergie, ça a de la créativité, ça a des talents qui sommeillent, qui sont anéantis par peut-être des successions de mauvaises notes ou des mauvaises appréciations. Il faut sortir de ce milieu et aller vers une formation professionnelle. Et à côté de chez moi, il y a un lycée professionnel, et à la rentrée, là, je passais devant, j'allais faire. Et tout d'un coup, il y en a deux qui sortent. Et il y en a un qui dit à l'autre, et toi, tu es dans quoi, toi? Alors il lui dit, moi je suis en pâtisserie. Il dit, putain c'est génial. Et dans le putain c'est génial, tout d'un coup j'ai senti qu'il avait trouvé le bout de la pelote, vous voyez, et il allait pouvoir dérouler. Et après,
Et après, le talent fait le travail, vous voyez. S'il se trouve le talent, l'ambition, les idées, qui tout d'un coup étaient anéanties par des résultats scolaires qui n'étaient pas bons, tout d'un coup, ça va germer. Et donc, je suis un ambassadeur de la formation professionnelle. Donc, c'est une part. Et ensuite, je leur dis à tous que, on ne repousse pas ses limites. On les découvre. Vous voyez ce que je veux dire? On est fait de choses qu'on ignore de soi. Et donc, moi, je leur dis, votre capital, c'est vous. Toi, t'es ton propre capital, c'est à toi de le faire fructifier. Alors, à partir de ce moment-là, il y a trois choses qui commencent quand t'as une idée, un désir. Du temps à y consacrer, du travail et de la persévérance. Ce sont ces points-là sur lesquels, souvent, le travail, c'est synonyme aujourd'hui de souffrance, machin et tout, alors que n'importe quel artiste, n'importe quel, je sais pas, n'importe quel violoniste, n'importe qui, on est obligé de travailler. Et dans le travail, on se développe, on se crée, dès qu'on est sur un travail qui est en confiance. Donc j'aime bien leur parler aux jeunes, oui. Et aux parents aussi.
Et aux parents. Dans les expéditions, on souffre beaucoup physiquement, c'est très dur, c'est raconté dans cet ouvrage-là et dans d'autres. Oui. Vous éprouvez votre corps, ces limites dont vous parlez, elles sont aussi extrêmement physiques. Et d'ailleurs,
et mentales.
Il faut se préparer, oui, à ces expéditions difficiles. Vous l'avez dit, l'important aussi, c'est cette pugnacité, c'est ça qui fait un bon explorateur.
Mais dans tout,
ouais.
Dans tout, c'est la pugnacité. Il faut savoir, la vie est une exploration. Moi, je rencontre des médecins qui me disent, putain, c'est toi qui as fait le bon choix, nous on a une clientèle, des crédits, je ne sais pas quoi. Je dis, mais attends, t'as la médecine, c'est un champ d'exploration extraordinaire. Et le pôle Nord, pour le relever ce que vous dites, c'est 30% dans les jambes, ou dans les muscles, et 70% dans la tête. C'est la tête qui fonctionne pour tout. Vous voyez, on a évoqué la marche. On marche avec les jambes, mais le désir de marcher, l'objectif à atteindre, la persévérance qu'il faut mettre pour l'avoir, c'est le mental qui se fait. Et le mental, c'est sa construction personnelle.
Un mot sur les exploratrices. C'est les 150 ans d'Alexandra David-Neel cette année.
Voyageuse,
voilà.
Oui.
Donc, on a aussi des publications qui sortent, en particulier une bande
150,
dessinée de Fred Campoy, oui, de sa naissance.
Ah, de sa naissance, oui.
Et de Mathieu Blanchot, c'est aux éditions Grand Angle, une vie avec Alexandra David-Neel. En fait, ça part de la fin de sa vie à Digne. Et puis, elle va dérouler le récit de sa vie et de ses expéditions. C'est important aussi que ces figures soient un peu plus diversifiées,
figures
de l'exploration.
Oui, j'ai oublié son nom. Il y a une femme qui s'était déguisé en homme pour pouvoir partir avec Commerson. Commerson, c'était un spécialiste des dauphins. Ils étaient partis en exploration. Mais là, je vous parle des débuts de l'exploration. Et donc, elle était déguisée en homme. Il y a des femmes comme ça qui se sont déguisées pour partir en exploration. Ce n'est pas un univers réservé aux hommes. C'est les hommes qui font que c'est un univers réservé aux hommes.
Alexandra David-Neel, elle vous inspire, François Place?
Oui, j'ai bien aimé, oui, les voyages, tout ce qui se passe en Asie centrale, Himalaya, tout ça.
Vous y avez été, pardon?
Non.
Alors, il faut y aller.
Mais non, moi, je suis en pantoufle.
Je suis un voyageur en pantoufle, c'est vrai. Mais non, et en plus, j'ai une petite. Personnellement, je pense qu'aussi le voyage, il faut avoir le talent pour le faire. Et je pense que c'est pas non plus. Par exemple, j'adorerais évidemment voir l'Antarctique, mais pour rien au monde, je n'irais, parce que je pense que moi, ce serait vraiment du tourisme, ce serait superflu, quoi, en fait. Et je pense qu'il faut aussi, pour un certain nombre de voyages, des gens qui, je veux pas dire qu'ils le méritent, parce que c'est pas la question, mais qui ont le talent pour ça, voilà.
Non, mais moi, je pense que vous sous-estimez complètement.
Non, du tout.
Vous allez à l'Antarctique en voyageur, par exemple? Mais vous, avec l'imagination que vous avez, mais ça va être du terreau, si vous voulez, pour tout ce que vous faites. Parce que sans voyager, rien qu'avec les pantoufles, vous avez un univers extraordinaire. Enfin, je prends la parole, pardon, mais je trouve ça...
Parce que vous avez un livre de François Place entre les mains.
Oui, j'ai un livre de François Place entre les mains. Les derniers géants. Et donc, vous avez une capacité
Mais ma nourriture vient davantage de la lecture, des images, etc. Ouais. Et c'est vrai que je suis pas un très bon voyageur. Chaque fois que je suis vraiment mal outillé psychologiquement pour ça, je vais me prendre des coups de soleil, je vais oublier mes trucs,
Donc je vais vous dire, vous avez un bon bilan carbone. Alors, c'est bien.
Voilà, c'est ça.
Vous faites des bonnes choses pour la planète.
J'ai un bon bilan carbone.
Mais c'est une magnifique transition parce que c'est un sujet qui vous tient beaucoup à cœur, Jean-Louis Etienne. L'écologie, l'environnement.
Ah, ben oui,
oui. Peut-être que marcher, explorer, ou en tout cas aller un petit peu plus loin que son univers domestique et son univers quotidien, c'est aussi voir ce qu'il advient de l'environnement. Est-ce que c'est parce qu'on ne le voit pas assez qu'on ne s'en préoccupe pas suffisamment?
Oui, alors moi, j'ai souvent interrogé comme le légitime qui a vu la glace fondre, et c'est une réalité.
Et vous en parlez, vous prenez la
bien
parole
sûr,
pour
bien
en parler
sûr,
publiquement.
Oui.
Et pour porter
parce qu'elle représente, si vous voulez, ce sont des illustrations réelles à l'échelle de la planète. Bien sûr, on voit, si on va à Chamonix, par exemple, dans les Alpes, on voit ces glaciers qui régressent. La mer de glace, c'est dramatique. Ça fait partie de notre univers, mais quand on dit que le pôle Nord fond, le pôle Sud fond, c'est quelque chose qui marque énormément. Et c'est une réalité. Moi, je vois... J'ai survolé en ballon la banquise en 2010, c'était en avril, donc la fin de l'hiver. Il y avait des étendues d'eau libre, ce qui est complètement anormal. Et en Antarctique, que j'ai traversé avec les traîneaux à chiens, les 600 premiers kilomètres de glace ont disparu. Donc c'est une réalité que le réchauffement climatique touche beaucoup les régions polaires et ce froid va nous manquer pour l'équilibre du climat.
C'est important aussi d'être un témoin physique de cette réalité
oui.
pour porter ce message.
Oui, parce que vous êtes le mec qui a vu. Vous voyez, vous avez été voir. Et surtout... Moi, je raconte des histoires, mais des histoires vraies. Oui, des histoires, des choses que j'ai vues, que j'ai vécues. Et je peux le faire, et je le fais parce que j'ai été sur le terrain. Et je me rends compte que si vous voulez faire passer un message, il faut le mettre en scène. Hein, le bon enseignant, c'est celui qui met en scène la connaissance, d'une manière générale. Enseignant au sens large, pas forcément l'instituteur ou le professeur. Donc la mise en scène des connaissances, c'est quelque chose qui permet de résumer en peu de mots avec quelques images des phénomènes. Et je l'ai fait à l'Assemblée nationale l'autre jour, enfin pas dans la grande assemblée, mais en commission, vous voyez, je le fais devant des hommes politiques, devant des chefs d'entreprise, essayer de leur donner quelques mots clés, simples, de manière à ce qu'ils repartent, parce que c'est des gens qui ont le cerveau café d'informations, ils ont 15 rendez-vous en suivant derrière, vous voyez ce que je veux dire?
Mais c'est peut-être eux qui ont besoin d'être éduqués sur ces sujets-là aussi.
Exactement, et c'est pour ça que je raconte une histoire. Et donc ça permet tout d'un coup de les détourner de leurs préoccupations instantanées dans lesquelles ils sont pour faire passer deux ou trois informations, qu'ils repartent avec une information. Un homme politique, il est surchargé, ces hommes politiques, ils ont un agenda monstrueux. Il est avec vous, mais il est déjà sur une autre opération. Et donc c'est tout d'un coup, sac, rentrer dans son cerveau par une image, un éclair, un récit, et deux ou trois informations clés de manière à ce qu'ils partent avec ça et qu'ils s'en souviennent et sans le déformer.
Jean-Louis Etienne, je ne sais pas si vous avez vu ce film, il date de 73, ça s'appelle « Soleil vert » avec Charlton Heston. Et dans ce monde imaginaire, la planète est beaucoup plus chaude, il n'y a plus de nature, on ne peut même plus se nourrir d'aliments autres que très industriels.
Oui, je me souviens.
Et sur leur lit de mort, on montre aux gens des images de la nature sauvage, des animaux, des couchers de soleil, la mer, les vagues sur les rochers. Et ces images sont destinées à apaiser les gens. Est-ce que ces images d'exploration, ces images de nature qu'on nous montre aujourd'hui dans de très très beaux documentaires qui vraiment célèbrent la vie sauvage, ne nous éloignent pas aussi des dangers qui guettent cette vie sauvage du fait que beaucoup d'espèces sont en train de disparaître
oui.
et que, vous l'avez dit, le climat se réchauffe?
Il y a deux choses à faire, si vous voulez. Donner envie de protéger par ces belles images, ces reportages, ces récits. Et effectivement, et montrer qu'il y a un chemin de gravité qui se met en place, et montrer que chacun a quelque chose à faire. C'est vrai que si vous parlez de la globalité des problèmes planétaires, ça nous met devant une impuissance, un découragement. Ce qui est important, c'est que chacun soit efficace sur sa zone d'influence. On a tous une zone d'influence personnelle, familiale, professionnelle, politique. Donc, déjà, en étant acteur autour de soi, on peut changer les choses.
Un autre sujet dont on avait très envie de parler, c'est celui de l'aventure en famille, et ça tombait bien. Toutes les semaines, dans Être et Savoir, une rubrique, la leçon de choses, dans laquelle un invité évoque son enfance, ses souvenirs d'école, ses souvenirs familiaux d'éducation. Cette semaine, on avait envie de vous la faire entendre, cette leçon de choses, Jean-Louis Etienne et François Place, car ça parle aussi de voyage et d'exploration. C'est l'écrivain et peintre Emmeline Landon qui s'est confiée à Sophie Bobert. Ça commence dans son pays, à l'autre bout du monde.
Mon enfance en Australie, c'est la petite enfance, parce que je suis partie à l'âge de 6 ans. Donc en fait, c'est tout ce temps où on n'a pas encore vraiment... Si, on commence à écrire un petit peu, mais on est quand même très libre. On n'a pas encore été vraiment formé par l'école. Et ce qui me reste de ces moments-là, c'est un peu, je pense que c'est ça à voir avec mon métier de peintre. C'est l'espace, les couleurs, cette qualité de l'air de l'Australie et de ses odeurs. Et mes parents, très jeunes, avec quelque chose d'assez sérieux et une sorte d'envie de vivre autre chose que ce que leur présentait l'Australie. Parce que l'Australie, il y a d'un côté, il y a ce pays, surtout dans les années 60, vraiment merveilleux, sauvage, avec une présence incroyable, mais il y avait aussi le poids de la société anglo-saxonne, un modèle qui était vraiment assez pénible, et eux, ils avaient envie de s'affranchir de ça. Donc ils ont travaillé de manière, ils ont mis des sous de côté. Moi, je vois bien une photo de Peggy et moi, ma petite sœur, en train de dessiner. C'était en 69. Il y avait la traduction du livre de Cohn Bendit qui était sur la table. Donc
ils étaient un peu hippies alors. Hein.
Hippies, non, mais ils étaient littéraires, hein, ils étaient à la recherche d'autre chose. Mm. Il y avait une envie de voir le monde. Mm.
Comment est-ce que vous vivez ces voyages, hein, Émile Landon, lorsque vous avez 6 ans, 7 ans, 8 ans? Est-ce que vous en étiez heureuse, ou est-ce que vous aviez la nostalgie de l'Australie? Enfin, ça s'est passé comment pour vous?
Oui, en fait, après la traversée d'abord le Pacifique et le Transsibérien, on a atterri en Angleterre. C'est très important ça, parce que en fait, les Anglais méprisent les Australiens. Ils trouvent qu'ils ont un mauvais accent, qu'ils sont un peu des ploucs. Ma sœur et moi, là, on avait un magnifique accent anglais, et puis hop, après, il a fallu aller aux États-Unis. Donc là, il y avait encore un autre accent. Mais comment est-ce que moi j'ai vécu petite ces voyages? On dessinait tout le temps avec ma sœur. Donc même pendant la traversée, pendant le Transsibérien, ma mère elle a gardé d'ailleurs tous nos dessins. Et puis je pense que là j'ai eu le virus du déplacement. Puis après il y a toujours, je me souviens dans le bateau quand j'étais petite, mais on savait pas du tout où on allait. Donc c'est étrange de partir comme ça, mais en même temps il y avait on est protégé quelque part. Alors donc j'ai toujours un peu gardé cette confiance de qu'on soit comme un escargot avec sa petite maison sur le dos, ou qu'on ait un atelier comme là où nous sommes maintenant. Ça revient au même. En fait, ce qui est important, c'est d'avoir cette confiance.
Vous avez écrit, Émile Landon, je vous cite, « Je crois que je suis toujours à la limite de la cartographie. C'est sans doute dû à mon pays natal, l'Australie, qui n'apparaissait jamais sur les cartes anciennes. » Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de ces traces-là et de cette petite fille que vous avez été là-bas? Je veux dire, lorsque vous fermez les yeux, Émile Landon, quelle image de vous réapparaît et apparaît-elle?
Justement, c'est cette que j'aime la liberté des cartes anciennes, où la topographie n'est pas précise. Comme par exemple, je déteste cette idée philosophique de dire que tout est connu dans le monde. Je pense pas du tout, en fait. Ce que j'aime avec les cartes, c'est ce qui n'est pas là. Alors, c'est par rapport à cette petite fille que j'étais, je dirais, voilà, c'est ça. C'est une sorte de départ vers l'inconnu. Avec peut-être, on a toujours comme ça des peurs, hein, mais en même temps, il faut s'armer de cette confiance et de ce qu'on aime, de prendre ce qu'on aime avec soi et continuer. Enfin, je pense que je suis cette même petite fille qui est partie et qui a quitté son Australie en bateau. Et puis, comment dire, hein, je trouve que c'est beau.
Et que vous dit Émile Landon aujourd'hui, cette phrase de Fanny, une des trois sœurs du livre La tâche aveugle, je la cite, « Depuis l'accident, nous sommes pratiquement toujours on the move. »
Ah oui, c'est vrai, il y avait un autre accident là. Je dirais que les accidents, il y en a toujours dans la vie. Et on the move, hein, oui, je pense que je le suis toujours. Enfin, j'essaie de l'être. Je pense que ce qui est bien, c'est de conserver un peu cette fraîcheur de l'enfance. Et c'est quelque chose qui serait comme une peur, mais justement qui pour moi est toujours de l'ordre de l'inconnu.
Et le prochain ouvrage d'Emeline Landon, Marie Galante, paraîtra le 22 novembre chez Gallimard. Et en l'écoutant, on entend combien ses propos dialoguent, hein, avec ce qu'on a pu dire, par exemple, sur les cartes et sur la géographie. On voulait vous faire écouter cet entretien, François Place et Jean-Louis Etienne, et vous faire réagir déjà à cette idée de voyager en famille.
Et oui, la place des parents est importante. Moi, j'avais des parents qui étaient sédentaires, quoi, mais je ne sais pas pourquoi, d'où me vient cette idée de vouloir me déplacer du voyage. Je l'ai fait avec mes enfants. On est parti sur une île déserte qui s'appelle Clipperton. Toute petite île. On a vécu, on n'était pas que tous les quatre. On était avec quelques chercheurs qui se succédaient. Mais ils vivaient nus. On était sur une île sous les tropiques. Et donc, vous voyez, la vie avait 3 ans et 9 mois. Le petit Ulysse, il a appris à marcher sur cette île déserte. Et après 4 mois, on est rentré. On est revenu à Paris. On habitait au 11e étage. Elliot, il est monté sur la table, il regardait, il n'y avait que des maisons. Il se tourne vers moi et il me dit « Mais papa, on ne va pas mourir ici. » Et donc ça m'a vraiment secoué, quoi. Et je me suis dit, pour les parents qui nous écoutent et tout ça, c'est important. Il parlait de hippie, il parlait de tout ça. Moi, je connais beaucoup de parents qui partent comme ça, à un moment donné, qui se rendent compte qu'il faut offrir quelque chose aux parents, donc ceux qui nous écoutent et qui hésitent. Non, il faut y aller, quoi. Hein. Il faut savoir abandonner ce qu'on a acquis pour de nouvelles aventures. C'est là que... Moi, je suis pour le positivisme de l'inconnu. C'est là qu'on se réalise, c'est là qu'on se découvre.
Et c'est une éducation ?
Ah oui, c'est une éducation. C'est la même éducation dont je parlais au début. C'est la formation professionnelle. On apprend. Quand on est sur un vaisseau, quand on est quelque part, eh ben, il faut mettre la main à la pâte, il faut apprendre. Si vous avez un véhicule, je sais pas quoi, un van qui crève, il faut dépanner. C'est la vraie vie. Il faut faire la cuisine, il faut les choses comme ça. Et donc, oui, allez-y, quoi. Ça, c'est mon conseil, mon encouragement.
Une utopie de liberté dans ces voyages qu'on peut faire avec ses enfants. François Place, vous, c'est une autre forme de voyage que vous proposez. Et pourtant, il y a une utopie aussi dans vos livres, l'utopie de découvrir des mondes, et non pas des mondes que personne n'aurait vus, des contrées jamais découvertes, mais plutôt des lieux desquels nous n'avons pas d'image.
Oui, ou des lieux qu'on pourrait imaginer plausibles ou possibles. Voilà, c'est... Alors, pour rebondir un peu sur cette histoire de voyage en famille, moi, mes enfants me connaissent plutôt comme le type de l'atelier, quoi. Hein. C'est-à-dire que je me suis fait une espèce de cocon autour de moi, avec des livres, des objets, et j'y passe pratiquement toute ma vie. Enfin, je voyage de temps en temps, mais c'est vraiment... Mais ça rejoint ce qu'on disait sur la pâtisserie ou sur des métiers. Une fois qu'on a trouvé... Une voie qui nous est, comment dire, qu'on s'est choisie, on n'y est pas du tout malheureux. Et au contraire, on traverse aussi dans cet endroit, pas d'une façon aussi intense évidemment, mais on traverse aussi des moments de fatigue, on a aussi la nécessité de la persévérance. Mais je pense que c'est quelque chose de plus... soft, de moins... Ça demande moins d'épreuves que l'expédition, que de partir vraiment à l'aventure avec un grand A, je vais dire. Mais je suis content aussi de ça, quoi, de dire aussi aux enfants qu'il y a 36 possibilités d'être et que entre les nomades et les sédentaires, on peut être heureux comme nomade ou comme sédentaire.
Oui, les livres de vous que je viens de voir, là, vous leur offrez une fenêtre sur l'imaginaire extraordinaire.
J'essaie.
Alors que si vous montrez un film d'expédition, ils peuvent ne pas être sensibles, sauf les grands qui pourront peut-être à un moment donné se projeter dans quelque chose, un dépassement du corps. Vous, pour tous les âges, vous offrez aux enfants une fenêtre sur l'exploration, sur l'imaginaire qui est extraordinaire. Ah oui, sincèrement.
Et vous, Jean-Louis Etienne, quelles histoires avez-vous racontées à vos enfants ?
Quelle histoire je leur raconte ? Alors, vous voyez, Quand je parle
d'autonomie. Je leur parlais d'autonomie l'autre jour. J'ai dit, et il me dit, mais papa, tu nous dis ça depuis qu'on est tout petit. Donc, peut-être c'était quelque chose que j'avais à moi et que je voulais leur transmettre, effectivement, le plus possible de ne pas dépendre d'un environnement, des autres, comme ça, de garder une part à soi. Je trouve l'autonomie, c'est la part à soi sur laquelle on peut se conserver du temps. Mais c'est vrai, ça rejoint ce qu'on disait au début, cette part d'autonomie, elle est un peu infectée par l'immersion de toutes les tentations, de choses comme le téléphone, les jeux, comme ça, qui vous sortent de votre imaginaire, de votre créativité. Peut-être ça durera qu'un temps. Et il y avait Obama, je me souviens très bien, qui rentre dans une classe où ils étaient tous avec les tablettes, les choses comme ça. Elle lui dit, bon, ça c'est bien, tu joues avec. Il dit, mais à partir de maintenant, c'est toi qui vas faire la programmation. Programme l'histoire. Parce que toi, tu es un imaginaire, tu as des idées, j'en suis sûr. Programme, apprends, rentre dans le truc. Quoi. Ne sois pas qu'un consommateur passif, deviens acteur de tes histoires.
Je pense aussi, pour rebondir là-dessus, je pense aussi que les enfants, effectivement, quelle que soit la passion qu'ils développent, il faut arriver à conserver, il faut arriver, comment dire, à développer en soi un talent. Ça peut être, je sais pas, faire de la cuisine, faire de la danse, ça peut être, enfin, n'importe quoi en fait, mais quelque chose vraiment pour lequel on a énormément de goût, on a énormément de passion. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut pas vous enlever. Parce que même si vous êtes dans l'impossibilité de le réaliser, vous pouvez toujours, je sais pas, même dans un fauteuil roulant, on peut continuer à rêver de la danse, on peut continuer à parler avec la danse. Donc, je pense que c'est très important, effectivement, que les gamins, ils développent quelque chose à eux qu'on peut pas leur ôter. Je sais pas si ça va jusqu'à l'autonomie, parce que on vit dans des interactions constantes. Mais cette nécessité d'avoir en soi quelque chose qui n'est pas monnayable en fait, qui n'est pas échangeable contre de l'argent, qui est simplement quelque chose qu'on a en soi et qu'on peut cultiver en soi, qu'on peut cultiver aussi avec les autres, c'est indispensable. Je pense que les enfants, il faut pas qu'ils ne comptent que sur l'extérieur à chaque fois pour soit pour rêver, soit pour réaliser des choses. Il faut qu'ils aient effectivement, je rejoins ça quand on parlait du pâtissier qui dit c'est génial, mais il a raison. Et même si un jour, et peut-être il n'a pas les moyens de faire, j'ai lu combien d'histoires de prisonniers qui faisaient de la pâtisserie, enfin, ou autre chose, sans avoir les moyens de la faire, parce que on peut être dans des situations où, d'un seul coup, pour tout un tas de raisons, on est limité. Quand on parle de limite, on est limité dans ce qu'on peut faire. Mais si on a cultivé quelque chose, ça reste. Et c'est une force dans laquelle on peut puiser constamment, je crois.
Merci beaucoup à tous les deux. Jean-Louis Etienne, je rappelle que votre ouvrage c'est L'Enfant qui marche, publié aux éditions Plume de Carotte. Merci beaucoup François Place d'avoir été avec nous aujourd'hui. On retrouve toutes les références des ouvrages cités dans cette émission sur le site de France Culture à la page d'Être et Savoir. Clémence Daté était à la prise de son aujourd'hui. C'est Somanina qui réalise cette émission préparée en collaboration avec Avril Ventura. Être et Savoir revient dimanche prochain à 17h. Nous parlerons du loup avec l'historien Michel Pastoureau et l'auteur et illustrateur Grégoire Solotareff. Vous nous retrouvez quand vous voulez en podcast également toute l'émission ou bien la leçon de choses de Sophie Bobert. Et il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente soirée sur France Culture.